Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine, de Tokyo à Toronto en passant par l'Europe. Et en ce moment, place de la République à Paris, les populations se rassemblent en soutien aux Ukrainiens. Eux vivent la troisième journée d'une guerre qui semble partie pour durer. Ce soir, la Russie annonce élargir son offensive dans toutes les directions. À Kiev, la capitale, le président Zelensky assure que les forces ukrainiennes tiennent toujours la ville. Et ceux qui n'ont pas fui se barricadent. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Omar Ouattara. Vous entendrez l'un des 100 000 Ukrainiens qui ont fui vers la Pologne, parti pour mettre sa famille à l'abri. Emmanuel Macron tient en ce moment un conseil de défense sur la situation. La campagne électorale est comme suspendue. Et puis en rugby, la France surclasse l'Écosse 36-17. Les Bleus confortent leur place de leader du tournoi. Et puis plein soleil demain dimanche, prévision météo à la fin de ce journal.
France Inter.
Des drapeaux jaunes et bleus aux couleurs de l'Ukraine, des pancartes affichant « Stop the war », arrêtez la guerre. Hier à Tokyo, Rome, Barcelone, ce matin à Genève, Marseille et Montpellier. Et cet après-midi dans des dizaines de villes de France, les habitants se rassemblent pour dire leur solidarité avec les Ukrainiens. Au troisième jour de l'offensive russe, place de la République à Paris, ils sont encore quelques milliers sur place. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce rassemblement sous le soleil et empreint de beaucoup de gravité Marion.
Oui, les visages sont crispés, beaucoup de pancartes brandies, vous l'avez dit, avec des stops à la guerre, stop à Poutine. Poutine décrit comme un fou par les manifestants, un dictateur. Et dans la foule, ici, beaucoup d'Ukrainiens, des membres de la diaspora, encore abasourdis par l'attaque russe. Olga, la vingtaine, et drapeau ukrainien sur les épaules.
Non, je suis d'accord que jusqu'au bout, on ne croyait pas vraiment. Bon, on croyait que ça pouvait être un chantage ou je ne sais pas, une espèce de bluff ou quelque chose comme ça, mais parce que c'est impossible de le considérer comme une.
Ils considèrent que l'Ukraine n'est pas un pays pour.
Bah, c'est ce qu'il dit. Hein.
Même sentiment d'incompréhension pour Katerina, venue avec des amis. Tous sont étudiants et leurs familles et amis sont en Ukraine. Et Katerina qui peine à cacher sa colère et ses larmes.
Pour que l'Union européenne ait autant pour qu'elle fasse les actions, pour qu'elle nous aide, parce que nous, on est à côté de l'Europe, en fait. Comment on peut vivre tranquillement s'il y a des gens qui mangent là-bas? Et comment on peut fermer les yeux en disant que, OK, on n'est pas en Ukraine, on n'est pas parti, on ne fait pas partie de l'OTAN, mais ça ne veut pas dire qu'on va nous laisser. Et...
Vous ne vous sentez pas soutenu aujourd'hui?
Tous les Ukrainiens, non.
Tous ont d'ailleurs leur portable à la main pour informer leurs proches de la mobilisation ici en France. Loredana s'est donnée pour mission de contrer la propagande russe.
La première vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment choquée. Pendant des heures, j'ai regardé mon téléphone. Je ne croyais pas que ce jour, il est vraiment arrivé. Et je commençais à appeler tous mes amis, ma famille là-bas. Même jusqu'à maintenant, ça fait très mal au cœur. Je partage au maximum pour que tout le monde voit ce qui se passe en réalité, pour éviter des fausses informations. Donc, j'essaie de soutenir mes amis, ma famille, le peuple ukrainien. Voilà, on fait tout ce qu'on peut au maximum.
Et dans la foule, des manifestants qui saluent le courage d'un homme face à Vladimir Poutine. Tous ici qualifient le président ukrainien Zelensky de héros national.
Merci beaucoup Marion Ferrer en direct de la place de la République avec Nicolas Mathias. Et sur le terrain justement, l'armée russe annonce ce soir qu'elle a reçu l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine. Difficile de connaître la situation dans l'ensemble du pays. Les forces russes sont entrées par le nord, l'est et le sud, mais se heurtent à la résistance de l'armée ukrainienne. Les bombardements ont touché la ville de Kharkiv à l'est, mais les Ukrainiens semblent garder le contrôle des villes clés, direction Kiev. La capitale ukrainienne est sous cloche, sous couvre-feu, jusqu'à lundi matin. Bonsoir Omar Ouattara.
Bonsoir Corinne.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place avec Gilles Gallinaro. Et les habitants à Kiev s'apprêtent à vivre une troisième nuit sous le bruit des bombes, Omar.
Oui, alors ce couvre-feu, c'est une décision qui a été motivée par la présence nombreuse, Corinne, de saboteurs. Ce sont des militants pro-russes très actifs dans la capitale ukrainienne. Ils préparent le terrain aux forces de Moscou en détruisant des installations. Ils font également un travail de renseignement, c'est-à-dire qu'ils donnent par exemple les coordonnées de cibles militaires pour les bombardements et les raids aériens menés par l'aviation russe. C'est un vrai problème pour les Ukrainiens, alors que les soldats de la Fédération de Russie ont fait leur entrée dans la capitale et que la bataille finale se profile à l'horizon. C'est la raison pour laquelle les autorités ukrainiennes ont décrété que toutes les personnes qui se trouvent dans la rue pendant cette période sont considérées comme des ennemis. Et ce qui explique pourquoi il y avait cet après-midi à Kiev beaucoup de lourdeur, beaucoup de tension avant l'entrée en vigueur de ce couvre-feu, alors que l'armée russe a effectivement reçu l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, ce qui signifie que les bombardements devraient redoubler d'intensité sur la capitale, qui est le principal objectif de Moscou.
Merci beaucoup Omar Waman en direct de Kiev avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Et sur les routes de l'exil, 115 000 Ukrainiens ont fui depuis jeudi vers les pays voisins, principalement vers la Pologne. 100 000 Ukrainiens ont franchi la frontière. Et malgré la mobilisation militaire générale en Ukraine, Petro a réussi à traverser la frontière avec sa femme et sa fille d'un an et demi. Et c'est avec un fort sentiment de culpabilité qu'il a quitté son pays. Écoutez Petro au micro de notre correspondante en Pologne, Sarah Bakaloglou.
Je suis entré, mais comment dire, je ne suis pas fier de ce fait, etc. Donc, moi, j'ai envie de, comment dire, d'être à côté des autres Ukrainiens, de résister, parce que, vous voyez, c'est le combat pour notre terre. C'est pas, si je n'étais pas voilà, avec ma femme et avec le petit-fille qui panique énormément, je ne peux pas vous-même, je ne sais pas, peut-être expliquer, mais c'est le sentiment qu'on en a plus peur. On n'a plus peur de mort, de rien. C'est-à-dire qu'on est dans un état, c'est une révolte, résistance, parce que c'est tellement injuste que les gens font. Vous voyez, qu'on est tellement énervé, on est tellement féroce que on a peur de rien. Voilà, c'est le sentiment des gens. Comme les gens disent, on ne peut pas accepter que nos enfants et nos femmes, nos mères pleurent. Non, on va les arrêter.
Petro, réfugié ukrainien en Pologne, au micro de Sarah Bakaloglou. Que peut faire l'Europe? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte l'Union européenne à exclure la Russie du système interbancaire SWIFT. Aujourd'hui, aucun État membre ne s'y dit opposé, mais les discussions se poursuivent. Et puis, conséquences concrètes, des sanctions économiques prises contre plusieurs entreprises et personnalités russes. La douane française a dérouté un cargo russe la nuit dernière dans la Manche. Le navire de commerce est actuellement à Boulogne-sur-Mer, immobilisé. Les autorités le soupçonnent d'appartenir à une société russe visée par les sanctions. Dans le reste de l'actualité, le Salon de l'agriculture a rouvert ses portes ce matin. Après une édition 2021 annulée pour cause de pandémie, les visiteurs sont venus nombreux goûter les produits du terroir et voir les animaux. Vous les entendrez dans le journal de 19h. Et puis on ne va pas bouder notre plaisir. En rugby, la France a battu l'Écosse dans son fief de Murrayfield à Édimbourg, 36 à 17. Les Bleus ne s'étaient plus imposés en Écosse dans le tournoi depuis 2014. Vincent Pellegrini.
Dans le chaudron de Murrayfield, les Bleus ont réussi une entame de match éclatante. Deux essais en 13 minutes. Le premier signé Paul Willemse après une folle chevauchée d'Antoine Dupont. Le deuxième inscrit par Yoram Moefana à la conclusion d'une très belle action collective. Le 15 de France a connu ensuite une période plus délicate. Les Écossais ont recollé à 2 points, 12 à 10. Mais dans les dernières secondes de cette première mi-temps, Gaël Ficou, sur un exploit personnel, a inscrit le troisième essai tricolore. Le match avait définitivement basculé et la deuxième mi-temps a été à sens unique face à des Écossais déboussolés et impuissants. Les Bleus ont offert un festival offensif, un essai de Jonathan Danty, deux de Damien Penaud. Ce très large succès assorti du point de bonus offensif leur permet de conforter leur première place du classement et surtout, il leur offre toujours l'espoir de remporter le Grand Chelem. Édimbourg, Vincent Pellegrini, France Inter.
Allez, un dernier mot pour vous dire que vous avez jusqu'à lundi soir minuit pour participer au Livre Inter 2022. Si vous aimez lire et parler de vos lectures pour être juré sous la présidence de Delphine de Vigan, eh bien écrivez-nous sur franceinter.fr ou par courrier à France Inter, Livre Inter 75 220, Paris Cedex 16. Un œil sur le ciel.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Le soleil brillera demain, Jean-Michel Golinski.
Pratiquement toujours que du plein soleil en vue pour cette journée de dimanche. Seule ombre au tableau, un ciel plus chargé à prévoir sur la façade atlantique et sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis en fin de journée sur le Languedoc, mais ce sera quasiment sans pluie. Les températures, pratiquement stationnaires d'un jour sur l'autre, vont souvent afficher 0 à moins 3 degrés à l'aube, en dehors de l'abricotier, et 10 à 13 degrés l'après-midi au nord de la Loire, dans le nord-est et en Rhône-Alpes, souvent 15 à 17 sur les régions méridionales, avec par exemple 17 prévus sur la Gironde, 16 du Quercy à la Bigorre et 15 degrés à Marseille et à Montpellier.
Jean-Michel Golinski de Météo France.